VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Bamako, 17h à Kinshasa. Bienvenue à notre bulletin de nouvelles. Au Tchad, l'ex-maire de Moundou et ancien candidat à la présidence laokaine Mokourayo Médar, en détention depuis jeudi, est finalement passé devant la justice. Son arrestation musclée avait eu lieu quelques jours seulement après sa destitution par le conseil municipal de la capitale économique du pays. Les explications de son avocat, maître Boniface Mwandil Madji, au micro de Solange Nyamulisa.
Il a été déféré devant le parquet d'instance. Une information a été ouverte, c'est-à-dire le dossier est transmis au juge d'instruction et il est placé sous mandat de dépôt et conduit à la maison d'arrêt.
Le procureur n'avait pas ordonné sa détention, mais plutôt qu'on l'écoute. Alors comment expliquer son arrestation?
Dès le début jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu accès à lui. C'est aujourd'hui seulement que j'ai pu l'assister. Donc les pièces même là, comme c'est un dossier devant le juge d'instruction, c'est demain qu'on va photocopier certaines pièces. Donc je n'ai pas eu à regarder toutes les pièces.
Comment se fait-il que vous, son avocat, vous n'avez pas eu accès à votre client?
Oui, mais vous savez, on est au Tchad, hein. C'est pas comme chez vous là-bas, où l'avocat a accès à son client. Or, la loi autorise, mais c'est la police qui gère sous les ordres de qui, on ne sait pas. Il y a des ordres qui viennent du parquet, il y a des ordres qui viennent d'une autre administration, on ne sait pas qui gère la police judiciaire. Plusieurs fois, j'ai été refoulé et brutalisé par la police.
Mais vous savez pourquoi il a été arrêté?
Les griefs retenus contre lui, c'est aujourd'hui qu'on a connu, c'est détournement de biens, usage illicite des biens par les agents de l'État et complicité.
Maître Boniface Mwandil Madji, avocat de Laokaine Mokourayo Médar, ex-maire de Moundou au Tchad. Au Congo-Brazzaville, nette absence d'engouement lors du vote aux élections législatives et locales de dimanche, Roque Loge de la société civile congolaise ne pense pas que le taux de participation électorale dépassera les 10%. On l'écoute.
C'était une véritable sanction que les citoyens ont voulu appliquer envers, pas seulement le gouvernement, hein, c'est toute la classe politique. Ça m'étonnerait qu'on arrive à 10%. La population en a marre de ce carnaval. Il faut bien que les gens s'asseyent pour trouver des solutions peut-être difficiles, qui ne vont peut-être pas faire plaisir à tout le monde, mais il faut qu'on trouve un consensus pour qu'enfin on aille dans les principes de la démocratie.
Voilà, c'était Roque Loge Nzobo de la société civile au Congo-Brazzaville.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Kenya, les fake news ou fausses nouvelles se font sentir dans le pays à quelques semaines de l'élection présidentielle du 8 août. Le point avec Nathalie Barge.
De nombreuses informations douteuses se déversent sur Internet au Kenya, notamment une vidéo peignant un avenir apocalyptique en cas de victoire de l'opposant Raila Odinga. Elle a été diffusée par un groupe dénommé The Real Raila, mais selon certains internautes, elle serait l'œuvre de Cambridge Analytica, une société britannique créditée d'avoir influencé les dernières campagnes électorales aux États-Unis et en Grande-Bretagne. L'entreprise affirme n'avoir aucun lien avec la vidéo, sans toutefois commenter sur son possible travail au Kenya. Cambridge Analytica avait déjà travaillé sur la campagne 2013 du président Uhuru Kenyatta, conçue par la société britannique BTP Advisors, pour le dépeindre comme victime d'un complot occidental visant à le juger devant la CPI. Le Kenya élit le 8 août son président, ses députés et ses gouverneurs, 10 ans après les violences électorales qui avaient fait plus de 1000 victimes et des centaines de milliers de déplacés.
La lutte contre le djihadisme maintenant doute sur la mort éventuelle du chef de l'État islamique Aboubakar al-Baghdadi. La présidence russe dit ne pas disposer d'informations sûres à son sujet. Eric Manirakiza.
L'armée russe avait pourtant annoncé le 22 juin avoir tué Aboubakar al-Baghdadi lors d'une frappe aérienne fin mai près de la ville de Raqqa, au nord de la Syrie. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a soutenu la semaine dernière la revendication russe, sans toutefois indiquer ni le lieu, ni la date ou les circonstances de cette mort supposée. Washington est resté prudent. Le chef du Pentagone, Jim Mattis, s'est gardé de confirmer ou démentir l'information. Aujourd'hui, le Kremlin a reconnu ne pas avoir d'informations sûres. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a déclaré que leurs agences de renseignement sont en train de le vérifier. En novembre, au lendemain du lancement de l'offensive sur Mossoul, Aboubakar al-Baghdadi s'était exprimé dans un enregistrement audio diffusé. Depuis, il n'a plus donné signe de vie.
Éco avec vous pour la Minute Éco sur VOA Afrique. Dans le cadre du 6e sommet du TAC, traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, Alpha Barry, ministre burkinabé des Affaires étrangères et de la coopération, a annoncé le lancement des travaux du tronçon Ouagadougou-Koudougou, un projet inclus dans la réalisation de l'autoroute Ouagadougou-Abidjan. Les travaux devraient débuter au premier trimestre 2018 et afin d'assurer la continuité des ouvrages, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ont convenu de rechercher des financements communs pour la réalisation de l'autoroute. L'agence de notation Moody's a baissé la note de crédit attribuée aux dettes du Gabon. Elle passe de B1 à B3 avec une perspective négative. Moody's avance deux raisons principales pour expliquer la dégradation de cette note. D'une part, la détérioration des finances publiques gabonaises à cause de la chute des prix du pétrole combinée à une capacité d'ajustement politique limitée et d'autre part, le manque de liquidité auquel fait face le gouvernement gabonais. L'Afrique du Sud prépare l'émission de 3 eurobonds d'une valeur de 2 milliards de dollars chacun. Les responsables sud-africains doivent rencontrer aujourd'hui 9 banques faisant des propositions pour jouer les entremetteurs lors de ces opérations. Le premier emprunt souverain est annoncé pour la fin de l'été 2017.
VOA Afrique, la radio de tout le monde.
Tell me what I'm saying.